À tous déjà, Thierry. En fait, hier, j'étais aux Galeries Lafayette et ça se passe pas très bien en fait avec l'équipe. Et avec la responsable, c'était pas top. Et donc, elle m'a fait pas mal de reproches. Elle m'a dit que j'étais super stressée, que j'étais pas à l'aise et tout. Et qu'en vente, j'étais un peu timide, donc il fallait que, voilà, que j'y aille. Et donc, j'étais pas trop d'accord avec elle parce que j'ai eu un accueil assez mauvais. Donc, enfin, j'avais vraiment un a priori sur ce magasin, j'avais beaucoup de mal. Et donc, le matin, elle arrive, elle nous dit, voilà, on a un soin de luxe chez Givenchy, il est à 310 euros. Et on est obligé d'en vendre un à la fin, pour la fin du 15 novembre, en fait. Parce que par rapport à l'équipe, on est obligé et tout, on est en retard. Et elle me dit, bon, bah, toi, vu que t'es stagiaire, je te demande pas grand-chose. Mais voilà, je vous le dis à toute l'équipe, il faut vendre le soin. Et... Donc vendre un soin d'une crème de 50 ml à 310 euros, c'est pas tout le monde, quoi. Et elle me dit, voilà, si on en vend 4 dans le mois, c'est génial et tout. Et à un moment, il y a le printemps qui appelle et qui dit, est-ce qu'Esther, elle va bien et tout, parce que c'est cette équipe-là qui me gère le plus. Et elle dit, bah voilà, elle est un peu malade et tout, mais elle va nous vendre un soin noir, ça ira mieux. Et puis bah moi le midi j'ai été priée pour ça à ma pause déjeuner, je lui ai dit bah voilà faut que je fasse mes preuves aujourd'hui et tout. Et aide-moi à vendre ce soin et tout ça. Et il était 6h, donc j'allais partir à 6h15. Et là il y a une cliente qui arrive, je l'accroche avec une touche à sentir en fait. Elle me dit bah voilà je voudrais le parfum et tout, il sent bon. Et après j'allais l'encaisser comme ça parce que j'avais envie de partir. Et elle me dit, je lui dis, bah est-ce que vous auriez besoin d'un soin, on sait jamais, machin. Elle me dit, oui, bah qu'est-ce que vous avez chez vous, je connais pas du tout. J'ai commencé à lui argumenter le soin et elle me fait, bah ok, y a pas de souci, vous êtes sûre, oui. Ok. Après sa carte, je me suis dit sa carte elle va pas passer ou je sais pas. Et finalement, elle a pris. Du coup, elle me fait bah, « Après, vous me ferez un paquet cadeau. » Donc, pour le paquet cadeau, j'étais un peu tremblante et tout. Après, elle me fait... Donc, ma responsable, elle me regarde. Elle me dit « Elle a pris le soin ?» Je fais « Oui, oui. » Elle me dit « Bah, tu sais que c'est super rare pour quelqu'un que ça fait 2 mois qu'il est ici, qui est chez Givenchy, qui connaît pas les produits. Enfin, c'est super rare de vendre un soin à ce prix-là. » Et elle m'a dit « Bah, bravo. » Elle fait « En fait, tu reviens quand déjà ?» Voilà. Bah, merci, Seigneur. Et puis... Enfin, même si on n'est pas là très souvent, les jeunes, comme vous dites, on pense quand même à vous et on prie toujours. Et voilà. Donc, merci Seigneur.
C'est bien, gloire à Dieu. Merci Esther pour ce beau témoignage. C'est du témoignage dans la vraie vie vécue. Hein. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Merci les musiciens. Dieu vous bénisse. Voilà. Ce matin... On va lire 1 Jean 3:8, s'il vous plaît, ensemble. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous avez déjà fait attention à ce texte sacré? Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Est-ce que vous avez déjà fait attention à cet autre verset, Colossiens 2:15 ? Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. C'est géant ce texte, mes frères et sœurs. Ainsi, d'après les Écritures, Jésus a détruit les œuvres du diable, Jésus a dépouillé le diable de sa puissance et il a triomphé du diable à la croix. Alors, mes frères et sœurs, puisque les œuvres de Satan ont été détruites, puisque sa puissance lui a été ôtée, puisque le Seigneur a triomphé de lui, il doit être un ennemi vaincu. Amen. Absolument. Et le triomphe de Jésus, c'est aussi le nôtre, puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous faisons partie de la famille de Dieu, nous sommes dans la famille de celui qui a vaincu, et nous sommes au bénéfice de la victoire de notre frère aîné, Jésus-Christ. Il a vaincu pour nous, il n'a rien fait pour lui-même, il l'a fait pour nous. Voilà ce qu'il dit. Il a tout fait pour nous. C'est pour nous que Jésus-Christ a vaincu Satan. C'est pour nous qu'il l'a dépouillé de toute sa puissance. C'est pour nous qu'il a détruit les œuvres du diable. Alors, comment se fait-il que Satan, qui a été vaincu, tient son maître, qui est l'Église, le corps de Christ, en esclavage? Comment ça se fait? Celui qui est vaincu, qui lie son maître, comment c'est possible? Mes frères et sœurs, d'après le Nouveau Testament, Jésus a donné à l'Église la puissance et l'autorité sur Satan qui est déjà vaincu. Alors, je vous exhorte à ne plus supporter plus longtemps d'être assujetti à la domination de Satan qui est l'accusateur. Sortez de l'esclavage. Amen, amen, amen. Confessez que vous êtes vainqueur. Dites que vous êtes vainqueur. Confesser, ça veut dire dire. Dire comme Dieu dit. Dites ce que Dieu dit. Et après avoir dit, tenez ferme dans votre confession sans flancher. Il ne suffit pas de dire « je suis vainqueur » puis de se comporter comme des vaincus. Il faut dire que vous êtes vainqueur et vous comporter comme des vainqueurs. Voilà la vérité. Car il est fidèle celui qui a fait la promesse. Car il est fidèle celui qui a fait la promesse. Car il est fidèle celui qui a fait la promesse. Hébreux 10, 23. Alors il vous faut maintenir fermement votre confession. Maintenir fermement votre confession de ce que Dieu dit. Dire fermement ce que Dieu dit et agir en conséquence. Je vais vous dire une chose. Chaque croyant peut devenir maître de Satan d'un instant à l'autre. Parce qu'en ressuscitant des morts, Jésus a laissé derrière lui un ennemi vaincu pour l'éternité. Pour l'éternité. Pensez toujours, toujours, toujours que Satan est un ennemi vaincu pour l'éternité. Pour toujours. Maintenant, il est vaincu. Tout à l'heure, il sera encore vaincu. Dans 2 ans, il sera encore vaincu. Il sera vaincu toujours. Il a été vaincu pour l'éternité. Considérez que désormais, vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous avez sur Satan une entière domination, une entière autorité. La Bible déclare que nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Oh ! Que nous avons été recréés en Christ, Éphésiens 2, 10. Et que quelqu'un qui est en Christ est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Mes frères et sœurs, nous sommes positivement créés tout neuf en Christ. En Christ, nous sommes tout neuf. Nous sommes les membres de son corps. Il a eu un corps quand il était sur cette terre il y a 2000 ans. Il en a un nouveau et nous sommes justement les membres de ce corps. Nous sommes aujourd'hui sa chair. Nous sommes aujourd'hui ses os. Éphésiens 5, 30 pour ceux qui veulent le verset. Alors, il faut que vous vous fondiez volontairement, définitivement sur la parole de Dieu, sur ces textes de la Bible. Et il vous faut dire ce qu'ils disent. Ils disent que Christ est en vous et ils disent ce que vous êtes devenu, une création nouvelle. Nous sommes ce qu'il est. Nous sommes en lui. Jésus a confirmé cela en disant, celui qui croit en moi, voici les œuvres, il fera des œuvres, les mêmes que les miennes et même encore des plus grandes. Jean 14, 12. Alors, nous pouvons le faire en son nom et nous le faisons. Maintenant, écoutez ça, c'est vrai quant à nos œuvres, c'est-à-dire à nos actions d'amour, à nos actions surnaturelles, les miracles et ces choses, mais c'est vrai quant à notre position en Dieu. Dieu nous a placés en Christ, et en Christ, nous avons le rachat, la rédemption. Éphésiens 1, 7, qu'est-ce que ça signifie? Comment est-ce que Dieu nous voit alors? C'est lui qui nous a mis en Christ. Comment est-ce que Dieu nous voit? Où nous voit-il? Dieu nous voit en Christ. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Ça n'est pas écrit de temps en temps une onction momentanée. Non, monsieur. C'est écrit, nous avons tous reçu de sa plénitude. Jean 1, 16. Dites ce que la Bible dit. Avez-vous reçu de sa plénitude? Amen. Oui, tous ceux qui ont cru ont reçu de sa plénitude. Qu'avez-vous besoin d'une onction particulière sur des moments particuliers? C'était bon pour l'ancienne alliance. Maintenant, ces choses sont passées. C'est nouveau maintenant. C'est nouveau. Ça date de 2000 ans. Mais il serait temps que le peuple de Dieu croie ça et confesse. Mais il ne peut pas croire s'il ne sait pas. Il faut qu'il apprenne ces choses. Ce sont des faits. Dieu l'a fait. Ces faits, ils constituent ce que nous croyons et donc ce que nous disons. Et nous agissons en conséquence. Nous prions, nous pensons en conséquence. De ce que nous savons et que de ce que nous pouvons croire. Ça ne suffit pas de dire, moi je crois que la Bible est la parole de Dieu. Encore faut-il savoir ce qu'elle dit, cette parole de Dieu. Et dire la même chose que ce qu'elle dit et non pas inventer des dogmes. Le dogme de l'onction, c'est un dogme. C'est une expérience que les gens font émotive, mais ça n'est pas ce que la Bible dit. Si vous dites ce que Satan fait dans votre vie, vous niez que vous êtes en Christ. Et tous ces gens qui sont sans arrêt en train de dire qu'ils sentent l'onction, qu'ils vivent quelque chose sous l'onction, à côté de ça, ils sont toujours en train de dire ce que Satan fait dans leur vie. Mes frères et sœurs, quand vous savez que vous êtes ce que Jésus dit que vous êtes, vous agissez d'après cela en disant ce que Jésus a fait pour vous, vous arrêtez de parler de ce que Satan essaye de faire contre vous. C'est cela qui glorifie Dieu. C'est cela qui glorifie la parole écrite. Quand Jésus dit « Toutes choses sont possibles à celui qui croira », ça signifie « Toutes choses sont possibles aux croyants ». Mais croire, avant de croire, il faut savoir ce qu'on croit. Il a fait de nous des maîtres et non des esclaves. Alors comportons-nous comme des maîtres. Nous croyons en lui, ok. Où est-il? Nous croyons en lui, ok. Qui est-il? C'est important. Si je suis créé en lui, ça signifie quoi? Si c'est en lui que nous vivons, alors il est nécessaire de savoir ce qu'il est et il est nécessaire de savoir tout ce qui le concerne. Voilà pourquoi je vous dis, je vous redis, je vous redis, je vous redis toujours, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu. Combien de temps passez-vous chaque jour à lire la parole de Dieu, à la méditer, à vous en nourrir? Mes frères et sœurs, considérez Jésus, celui qui est à la droite de Dieu, celui qui m'aime, celui qui est mort à ma place, celui-là, il vit maintenant et éternellement pour moi. Est-ce que vous pouvez dire ça? Celui qui est assis à la droite du Père, celui qui m'aime, est-ce que vous pouvez le dire? Il est assis à la droite du Père, il vit maintenant et éternellement pour moi. C'est pour vous. Est-ce que vous pouvez le dire? Est-ce que vous le dites? Il est la réponse de Dieu au cri universel de toute l'humanité. Il était Dieu manifesté dans la chair et il veut être Dieu manifesté au travers de votre chair. Il faut que vous le sachiez. Jésus-Christ, quand il était sur la terre, il ne cherchait pas la vérité, il était la vérité. Est-ce qu'il a changé? Non. Où est-il? En vous. Tirez les conséquences de cela. Jésus-Christ, quand il était sur la terre, n'était pas un réformateur de religion, il était un recréateur. Quand il était sur la terre, il n'était pas un visionnaire, il était la lumière. Il avait un corps, maintenant il en a un nouveau, mais il est toujours le même. Quelle œuvre faites-vous? L'œuvre d'un visionnaire ou êtes-vous la lumière du monde? Quand Jésus était sur la terre dans son corps, il ne discutait pas, il savait. Est-ce que vous savez? Vous me direz, oui, non, mais moi je ne suis pas Jésus, je ne suis qu'un homme. Jésus était un homme. Il était Dieu dans un homme. Il est toujours Dieu dans des hommes. Mais il connaissait les Écritures. Pourquoi? Parce qu'il les avait étudiées. C'était pas un truc, comment on appelle, une science infuse. Il était un homme dans cette limitation, comme nous sommes un homme dans la limitation. Il n'était jamais effrayé, il ne montrait jamais aucune faiblesse, il n'hésitait jamais. Voilà pourquoi il dit, n'hésite, faites les choses sans murmure ni hésitation. Nous pouvons le faire. Il n'hésitait jamais, il était sûr de lui, il avait de l'assurance dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il disait. Il n'allait pas chercher des conseils. Il n'avait pas de sentiment de péché. Est-ce que vous avez un sentiment de péché? C'est parce que vous n'avez pas confessé votre péché et parce que vous n'avez pas cru que Dieu a pardonné votre péché. Voilà pourquoi vous avez un sentiment de péché. Moi, je n'ai aucun sentiment de péché. Michel, mais c'est de l'orgueil. Non! Quand j'ai péché, aussitôt je vais à genoux, je confesse mon péché et je crois que Dieu est fidèle et juste pour pardonner mon péché et je n'ai aucun sentiment de péché. Le diable est un accusateur, il cherche à m'accuser, il est vaincu au nom de Jésus et je lui mets ça en pleine figure. Oui, c'est vrai, j'ai péché, c'est autrefois. Je suis différent parce que maintenant, depuis que j'ai fait ça, Dieu m'a pardonné. Est-ce que tu peux croire ça? Est-ce que tu crois que Dieu t'a pardonné? Oui, tu crois que Dieu t'a pardonné? Peut-être si tu ne crois pas que Dieu t'a pardonné, c'est parce que tu ne pardonnes pas aux autres. Parce que la Bible dit que tu seras pardonné dans la mesure où tu pardonnes les autres. Il n'avait pas besoin de conseils, il n'en cherchait jamais. Ah, Michel, alors là on voit bien, tu es vraiment un franc-tireur, tu crois toujours être dans la vérité. Oui, je suis dans la vérité. Je suis en Jésus, je suis dans la vérité. Je connais ce que Jésus dit de lui, je connais ce que Jésus dit de moi, je connais ce que Jésus dit de son père, je connais ce que Jésus dit de Satan. Je suis dans la vérité. Et si Satan essaye de me séduire, de me tromper, de me mener sur un faux chemin, ça ne dure jamais longtemps. Jésus, le diable l'attendait à Jérusalem avec tous les religieux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il marche en direction de Jérusalem. Quand il a pris ça, il est allé ailleurs. Il ne traîne pas. Vous comprenez? Aussitôt qu'on s'aperçoit que c'est Satan qui nous mène par le bout du nez, on va ailleurs. Comme lui faisait. Il savait d'où il venait, il savait où il allait. Je sais d'où je viens. Je sais que j'ai un passé éternel. Dieu m'a révélé ces choses, je vous les ai révélées. Nous savons que nous avons un passé éternel. Nous savons que nous avons parlé avec Dieu au sujet de ce que nous vivons sur cette terre. Et nous ne nous plaignons pas. Pourquoi nous ne nous plaignons pas de ce qui nous arrive? Parce que nous savons que ce qui nous arrive, c'est ce que nous avons choisi. Alors nous relevons la tête et nous allons de l'avant. Nous savons comme lui savait. Il savait pourquoi il était venu. Il savait qui il était. Savez-vous qui vous êtes?
Oh, moi, je suis Michel Jantan, je suis né saint.
Non, je suis un enfant de Dieu. Et momentanément, je porte le nom de Michel Jantan, mais j'ai un nom nouveau qui m'attend, écrit sur un caillou. Il connaissait son père. Il connaissait l'homme, voilà.
Nous, on apprend à les connaître. Hein?
Déjà, si on apprend à se connaître soi-même, on connaît tout le monde. Il connaissait Satan. Il ne lui manquait rien. Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Non. Si vous dites qu'il me manque quelque chose, c'est que vous avez, il y a quelque chose qui vous manque, c'est la connaissance. La Bible dit, je ne manquerai de rien. Confessez qu'il vous manque quelque chose. C'est que, oui, ce qui vous manque, c'est la connaissance. Il n'avait pas de limitation. Et aujourd'hui, nous sommes en lui, nous sommes ses membres. Il ne reculait pas devant la persécution, sauf quand ce n'était pas le moment, il distaillait. Mais il n'avait pas peur de ce que les gens pensaient être une défaite. Par exemple, quand il était arrêté, il était le maître de son arrestation. Quand il était jugé, il était le maître de son jugement. Au tribunal, c'était lui le maître. Quand il a fallu qu'il se taise afin de ne pas convaincre Pilate qu'il était le fils de Dieu, il s'est tu, afin qu'il puisse être condamné, parce qu'il a voulu être condamné afin de porter nos péchés. Il était le maître. Il aurait très bien pu changer les pensées de Pilate. Il n'a pas fait. Il était tout puissant. Et cependant, il était un homme. Il est en nous qui sommes des hommes et des femmes. Christ vit en moi. Galates 2:20. Un autre texte. Afin que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Éphésiens 3:17. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1:27. Christ, votre vie. C'est vous qui vivez, non, c'est Christ ma vie. Colossiens 3:4. C'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1:30. Si c'est Dieu qui vous a mis en Christ, qui va pouvoir vous faire sortir de là? Personne. Personne. Si c'est Dieu qui vous a mis, personne ne peut vous sortir. Jésus est en vous. 2 Corinthiens 13:5. toutes ces vérités, frères et sœurs, sont frappantes quand on y croit et qu'on commence à agir en conséquence. Mais croire ça, ça va très très loin. Je vous dis, quand l'Église cessera de s'amuser et quand elle se mettra à voir sa position en Jésus-Christ, ce que Dieu a fait pour nous en son Fils, quand l'Église commencera à pratiquer cette sorte de confession de foi, dire ce que Dieu dit, au lieu de parler de ses défaites, de ses faiblesses, de ses manques, de son incapacité, de ses maladies, de sa disette, elle reviendra à ce moment-là au corps irrésistible de Christ. Elle deviendra, elle sera effectivement le corps irrésistible de Christ. Quand elle cessera de s'amuser. Ce sera l'achèvement des temps du rétablissement de toutes choses. À ce moment-là, elle reprendra sa place comme l'Église du Nouveau Testament en allant de l'avant dans le triomphe de la foi. Mes frères et sœurs, si seulement vous comprenez votre relation avec Dieu et votre position de croyant recréée, alors vous êtes autorisé à faire usage de son nom. Sinon, vous n'êtes pas autorisé à faire usage de son nom. Vous pouvez dire au nom de Jésus tant que vous voulez. Mais si vous ne comprenez pas quelle est votre relation avec Dieu, si vous ne comprenez pas quelle est votre position de croyant recréée, vous pouvez dire au nom de Jésus tant que vous voulez, il ne se passera rien. Parce que la parole de Dieu a été mise au-dessus du nom de Jésus. Si nous ne comprenons pas la parole de Dieu, le nom de Jésus n'est pas magique, il ne sert à rien. Est-ce que vous me croyez? C'est révolutionnaire. Ce nom, le nom de Jésus, dans la bouche d'un homme, d'une femme, qui comprend quelle est sa relation avec Dieu, qui comprend sa position de croyant recréée, ce nom est légalement donné à cette sorte de croyant-là pour qu'il en fasse usage. Et ce nom-là maîtrise le diable. Pauvre diable! En mon nom, ils chasseront des démons. Marc 16, 15. Qui? Les disciples. Ceux qui croient en mon nom. Ceux qui croient. Ceux qui croient quoi? Ceux qui croient précisément ce qui est écrit. Mes frères et sœurs, si nous pouvons chasser les démons, que pensez-vous? Nous pouvons aussi chasser les maux dont il est la cause. Ça paraît normal, non? Si nous pouvons chasser les démons, nous pouvons chasser les maux dont il est la cause. C'est ça, il a détruit les œuvres du diable. Ce n'est pas seulement le diable qui est chassé, mais c'est les dégâts qu'il a faits. Rappelez-vous, Satan est éternellement vaincu. Souvenez-vous. Vous savez, souvent, les bons pasteurs et quelques théologiens que je connais m'apprécient pas beaucoup parce que il transforme la vérité en philosophie, en expérience émotive, en fable. Il transforme la parole de Dieu en credo. Au lieu de laisser le maître nous parler au travers de la parole, non, ils font de ça. La parole de Dieu, la Bible, nous parle comme si Jésus était là en chair et en os. Elle prend sa place. Elle a la même autorité que s'il était présent comme il y a 2000 ans, la même chose. Lorsque vous prenez la Bible, il est bon que vous vous rappeliez que Dieu est dans le livre. C'est fort ça. Sa vie, elle est dedans. Dieu habite dans ce livre. La parole de Dieu, elle est éternelle. Elle a été. Elle est devenue chair. Elle est devenue livre, elle sera Dieu éternellement. Et puis elle n'est fraîche que pour ceux qui véritablement ont une communion avec Dieu. Pour les autres, c'est « Ah non, ça j'ai déjà lu, ah non, ça je connais, ah non, j'ai déjà lu ça. » C'est la voix qui vient du ciel, mes frères et sœurs. Mais si vous le croyez, ça devient vrai pour vous. Mais si vous ne croyez pas, c'est un bouquin comme un autre, qui raconte des histoires. La parole de Dieu, elle est semblable à son auteur, mes frères et sœurs. Elle est immuable, elle est vivante, elle est le souffle, elle est la pensée, elle est la volonté de Dieu. Voilà ce que c'est la Bible. Dieu est un avec sa parole, c'est une seule chose, c'est Dieu. Quand je dis chose, pardon Seigneur. Dieu est un. Jésus, il était la parole et maintenant il vit en moi. Et pensez-vous qu'il est autre chose que la parole ? Alors je lis la parole, je me nourris de la parole, cette parole vit en moi, cette parole se met à vivre au travers de moi. Lorsque je désire avoir plus de Christ, eh bien je me nourris de la parole. Lorsque je désire savoir mieux qui il est, eh bien je lis la parole, c'est là que je trouve mieux qui il est. Je peux la tenir dans la main, je l'ai dans mon cœur, je l'ai sur mes lèvres, je la vis, elle est en moi. Sa parole est ma force. Sa parole est ma guérison. Sa parole est mon pain de vie. Sa parole est la puissance de Dieu en moi. Tout ce que Jésus est, elle l'est. Elle est ma lumière. Elle est mon salut. Elle est l'oreiller de mon repos. La parole de Dieu me donne le calme au milieu de la tempête, de la confusion. Elle me donne la victoire au milieu des défaites. Elle me donne la joie au milieu de la désolation. C'est la parole de Dieu. La plus dangereuse habitude qu'un frère, qu'une sœur puisse avoir, c'est de traiter la Bible comme si c'était un livre ordinaire. Vous voyez, tout en disant qu'il croit qu'elle est la révélation de Dieu, il se tourne vers le bras de la chair pour obtenir de l'aide. Frères et sœurs, tout changerait si l'Église, si les chrétiens voulaient donner à la parole, à la Bible, la même place qu'ils donneraient à Jésus s'il se présentait là devant nous en chair et en os. Vraiment. Je prie pour ce pauvre monde évangélique. Vraiment, vraiment, vraiment. Frères et sœurs, dites ce que Dieu dit. Satan ne peut pas résister à ça. Il ne peut pas résister à ça. Dites, il m'a guéri. Si vous êtes accusé, dites, il m'a pardonné, il m'a purifié de tous mes péchés. Dites, que peut me faire un homme si Dieu est avec moi ? Si vous êtes devant des choix difficiles, vous ne savez pas quoi choisir, dites, il est mon berger, il me conduira de toute façon vers le meilleur. Si vous êtes trahi, dites, si mon père et ma mère m'abandonnent, lui ne m'abandonnera jamais. On vient de le chanter. Si vous êtes frappé par la disette, dites, il est mon pourvoyeur. Dites ce que Dieu dit. Le diable ne supporte pas ça. Il devra vous lâcher à cause de votre confiance et à cause de la confession de votre confiance, à cause de ce que vous allez dire d'après la foi que vous avez dans ce qu'il a dit, lui, dans la Bible. Vous savez, Satan est absolument fortement opposé à ce que l'Église apprenne, croit, fasse et propage cette révélation. Satan ne veut pas. Il ne veut pas. Parce que lorsque nous avons compris le secret de la puissance qui est caché dans « Il est écrit », alors là, la soumission de Satan, elle est absolument certaine et il le sait très bien. C'est pourquoi il ne veut pas que nous ayons la connaissance de ce secret de « Il est écrit ». Jésus, quand il se trouvait en face du diable dans le désert, il n'a pas commencé à argumenter. Il s'est servi d'une arme forte, la seule. Il est écrit. Et finalement, le diable l'a quitté et des anges sont venus pour le servir. Il nous a montré comment faire. Il est écrit. Il est écrit. Confessez ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Il a envoyé sa parole et il les guérit. Confessez, Dieu a envoyé sa parole et il me guérit. Sa parole me guérit. C'est ce qu'il a envoyé qui me guérit. C'est quoi qui me guérit? C'est ce qu'il a envoyé. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Sa parole. Et puis, louez Dieu pour votre guérison. Ce que Dieu fait, s'il l'a fait pour un seul, eh bien, il le fait aussi pour chacun de ceux qui croient comme ce un seul a cru. Ce n'est pas plus compliqué. Confessez toujours et toujours et toujours la parole de Dieu, même si vos sens physiques apportent un témoignage contraire. Confessez et dites toujours ce que Dieu dit. Moi, je me souviens, on devait me couper le pied gauche. C'était en 69. Et on devait me couper le pied gauche. J'avais la gangrène qui se mettait là. Et je suis allé dans une réunion et il y avait un prophète qui s'appelait Vikram Singh, qui a prié pour eux, pas pour moi, il y avait 2000 personnes. Mais il a prié pour les gens qui étaient malades parmi ces 2000 personnes, sans imposition des mains. Il a parlé en langue, tout simplement. Et moi, j'ai mis ma main sur ma botte de soutien. Et au nom de Jésus, cet homme s'est mis à parler en langue. Et moi, j'ai cru. Et tout à coup, j'ai senti comme si mon pied explosait. J'ai ôté ma botte de soutien. J'ai regardé mon pied qui devenait noir, était complètement blanc. Et la douleur m'avait quitté. Je pouvais marcher correctement. J'étais guéri. Alléluia! Mais chaque fois que je voulais rendre témoignage de ça, la douleur revenait. Alors un jour, j'ai dit, mais je vais arrêter de rendre témoignage que Jésus m'a guéri, parce que chaque fois que je le fais, la douleur revient. Et j'en ai parlé à un serviteur de Dieu, il m'a dit, eh ben écoute, justement, le diable essaie de t'avoir là. Continue à rendre témoignage que Jésus t'a guéri. Et quand la douleur revient, après que tu aies rendu témoignage, tu vas dans un coin où personne ne te voit, tu tapes ton pied par terre avec la douleur, et tu dis, menteur, je suis guéri. Au nom de Jésus, sors de là. Il essayera toujours de vous faire douter par des symptômes et par des grandes évidences que vous êtes moins que rien, que vous êtes un pourri, que vous êtes un malade, que vous êtes un pauvre, que vous êtes un con. Il est un menteur. Dites la parole de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Amen. Et il fuira loin de vous et les anges viendront pour vous servir. Oui ou non? Amen. Voilà la vérité. Confessez toujours la parole de Dieu. Même si vos sens apportent le témoignage contraire, confessez ce que Dieu dit. Confessez ce que Dieu dit. La parole de Dieu est la meilleure arme du monde. Nous ne pouvons rien employer de plus fort contre Satan. Jésus disait, il est écrit. La seule arme que Jésus a employée contre Satan, c'est la parole. C'est il est écrit. Contre les religieux, il a pris un fouet, une autre arme. Peut-être un jour, je vais me faire un fouet aussi. Puisque Jésus l'a fait avec tous ces gens, ces marchands du temple, je vais me faire peut-être un fouet. Il avait... Non, c'est pour rire que je dis ça. Il a fait ça, ça le regarde. Moi, je ne veux pas faire ça. Mais la parole est une arme, la seule véritable arme contre Satan. Et en fait, ce n'est pas contre des hommes, contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre des puissances mauvaises. Et c'est avec la parole de Dieu que nous arrivons à les vaincre. Amen. Amen. Ça doit faire réfléchir ça. Et ça doit nous faire arriver à une transformation de comportement pour agir de la bonne manière. Que Dieu nous vienne en aide. Réécoutez ce message. Et vivez-le, que Dieu vous bénisse. Amen. Sois béni, Seigneur Jésus, pour ce que j'ai pu dire ce matin, et que mes frères et sœurs puissent prendre conscience de toutes ces choses, et relèvent la tête, et se mettent à vivre tel que toi tu veux qu'ils vivent, pour glorifier ton Saint-Nom, Jésus. Amen. Amen. Amen.